If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, je vous fais une petite intro au milieu, je ne sais pas si vous entendez les petits qui jouent à côté, pour vous prévenir que cet épisode qui a été assez compliqué à mettre en place, c'est un épisode solo qui est fait au milieu, enfin je vous raconte au début de l'épisode, mais c'est la maladie partout, c'est la fête des miasmes, donc c'est vraiment compliqué. Le début de l'épisode, sur la toute première, les premières minutes particulièrement, et la première moitié un petit peu, il y a des sons de crachotage, et donc la qualité du son est vraiment pas top. Mais j'ai eu tellement de mal à faire cet épisode, c'était un effort surhumain pour des raisons que vous comprendrez. Je peux pas simplement le refaire, ce petit épisode solo, que je vais quand même le publier en l'état. Malheureusement, oh ma puce, j'arrive mon cœur. Bon, je dois y aller, je suis vraiment désolé. Si vous voulez faire l'effort de l'écouter, vous pouvez. Si vous voulez pas, je comprends bien. C'est vraiment une semaine, comme je dis souvent, les mois où il y a 5 épisodes, 5 semaines, 5 mardis dans le mois, et ben le dernier épisode est un épisode un peu spécial. Là, c'est carrément le cas. Pas forcément de la meilleure manière, mais j'espère que l'épisode sera intéressant quand même pour ceux qui l'écouteront. Comme je disais, sur la deuxième moitié, il y a beaucoup moins de problèmes de son. Et je crois que la petite... J'arrive, et ben je dois y aller. Je vous fais des grosses bises, désolé encore, la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux. J'espère, parce que sinon, je risque de pas tenir. Je vous fais des bises, ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On est en novembre encore 2021, c'est l'épisode numéro 433, et c'est un épisode très spécial pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un épisode que je fais seul. C'est assez rare que je fasse des épisodes d'actu seul. Le dernier, ça devait être il y a plusieurs années. Et c'est un exercice que j'aime bien faire de temps en temps. C'est un truc un petit peu différent. Mais l'autre raison pour laquelle c'est un exercice, c'est un épisode spécial, c'est la raison pour laquelle je fais cet épisode seul. Si vous suivez mon compte Twitter, et on va parler de Twitter dans cet épisode, eh bien vous saurez que c'est un petit peu l'apocalypse des miasmes dans la maison Béja. Il y a, mon fils est malade, ma fille est malade, ma femme est malade, et moi je commence à être malade, donc c'est vraiment compliqué ces derniers jours. On est dans, alors je vais pas vous être trop graphique dans mes descriptions, mais disons que ça sort de partout, on va le dire comme ça. Et c'est pas super agréable, je suis assez épuisé, j'étais pas sûr de pouvoir faire un épisode aujourd'hui, et de fait ça va être un épisode, un mini-épisode, où je vais parler des trois sujets principaux, qui sont peut-être des sujets avec des sous-sujets, mais des trois sujets principaux du jour, pour vous tenir quand même un petit peu au courant de l'actu, mais j'étais vraiment pas sûr de pouvoir le faire, à vrai dire, même maintenant je suis pas sûr que je ne serai pas interrompu en cours d'enregistrement. Et donc, je ferai de mon mieux pour livrer cet épisode en temps et en heure. Mais si jamais c'est un petit peu différent, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Là, vous savez, je parle parfois du fait que quand je lance l'émission, et ben là, c'est « the show must go on » et je suis plein d'énergie, plein de bonne humeur, etc., etc. On est vraiment dans un exemple parfait de ça, parce que je peux vous dire que la dernière semaine et les dernières nuits ont été vraiment difficiles. Je suis épuisé et je suis malade aussi, donc c'est l'effort surhumain du podcasteur, donc j'espère que l'épisode restera intéressant tout de même. Il y a trois sujets principaux qu'on va couvrir. L'essentiel, c'est le remplacement de Jack Dorsey à la tête de Twitter, c'est un gros événement quand même, et puis il y a un petit peu de questions sur la consommation du minage de crypto-monnaies qui commence à se poser. Les questions commencent à se poser chez nous également. Et puis, il y a aussi quelques questions bien françaises. Là, on parle même plus juste de l'Union européenne, mais vraiment de la France, sur des trucs un petit peu plus rigolos, mais quand même importants, comme faut-il retirer les boutons Netflix des télécommandes, ce genre de choses. C'est assez, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. Et puis, d'autres sujets qui sont en cours de discussion dans les sphères légales. Avant de nous lancer dans les discussions elles-mêmes, je voudrais remercier Fagoud, Renaud, Mickaël L, Yann Michala, Farinaz, Yved, Mathieu Friss, Benjamin Job, François, Fabien Plateau et bien sûr les producteurs, je vais tous les citer aujourd'hui pour le coup, Peter Rigal, Raph, Stéphane Lioret, Stéphane, Grégory Sata, Franck Matignon et Derek Herbe. Un grand merci à vous tous, puisque vous le savez, ce sont ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon et c'est grâce à vous qui choisissez de retirer un café de votre semaine, d'en avoir 9 au lieu de 10, pour vous assurer que vous aurez bien le rendez-vous tech dans vos oreilles chaque semaine. Pour le prix d'un café, moi je pense que ça vaut le coup, et eux aussi, mais c'est à vous de prendre votre décision, bien sûr. Mais un grand merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. et qui me permettait de, d'acheter des médicaments pour ma famille. Bon, alors, le premier sujet que je voulais évoquer, c'est évidemment une info très importante, qui est le remplacement du président de Twitter. On se souvient bien sûr que Jack Dorsey, qui était président, qui était également un des cofondateurs de Twitter, qui est remplacé par Parag Agrawal, qui est un ancien de la société, qui est depuis une dizaine d'années déjà. La société est à peine plus ancienne que ça. Et c'est vraiment un événement intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que Twitter est un réseau social vraiment particulier. Il est assez petit, assez modeste par rapport aux autres mastodontes du milieu. Et peut-être que vous-même, vous vous dites « Oh bah Twitter, bon moi je l'utilise pas, la plupart de mes amis ne l'utilisent pas, donc pourquoi est-ce qu'on lui donne tellement d'importance ?» Et c'est vrai, on a Facebook, Instagram, TikTok, même WhatsApp ou des choses de genre, dont les utilisateurs mensuels se comptent en milliards. On a des milliards d'utilisateurs pour ces réseaux sociaux. À côté, Twitter, c'est un petit réseau social. On est plus dans l'ordre de réseaux comme Snapchat. Alors, il a plus d'utilisateurs mensuels que Snapchat, mais on est dans le même ordre de grandeur. Chez Twitter, on est autour des 300 millions. Snapchat est à peu près à la moitié, si je ne me trompe pas. Mais donc, on est dans ce genre d'ordre de grandeur. Et donc, Twitter est vraiment beaucoup, beaucoup plus modeste que les autres. Et pourtant, c'est un réseau social dont on parle beaucoup plus que Snapchat. La raison de ça, c'est que l'importance du réseau est plus grande que son nombre, que ce que pourrait laisser penser le nombre d'utilisateurs. Alors, évidemment, 300 millions, c'est pas rien, hein, c'est clair. Même si on est loin de, si on considère YouTube comme un réseau social, ou même LinkedIn, ou même, je crois qu'on pourrait parler de quelque chose comme Pinterest ou ce genre de choses. Bon, on est peut-être plus proche de ce genre de chiffres, mais Twitter a une importance plus grande que cela parce que c'est là qu'ont lieu les conversations. Et la conversation, enfin, les conversations qui ont lieu sur Twitter sont les conversations publiques. Les autres sont un peu plus de la sphère des conversations privées, même si on voit des mises à jour arriver sur des pages sur Facebook ou s'il y a des gens qui vont parler publiquement de certaines choses sur Instagram. Quand on a quelque chose à dire au monde, c'est sur Twitter qu'on va. Et non seulement il y a quand même une communauté d'utilisateurs, mais en plus de ça, ce qui est dit sur Twitter est repris dans les autres médias. Et c'est un média, enfin Twitter, c'est un réseau social qui est très utilisé par des personnalités publiques, par des journalistes, par des gens qui font l'information. J'ai presque envie de dire que Twitter, c'est pas le réseau social des influenceurs, mais c'est le réseau social influenceur. C'est-à-dire que si on avait des types d'utilisateurs à la place des réseaux sociaux, eh ben, ça serait peut-être intéressant de faire un exercice de donner un type d'utilisateur pour Facebook ou Instagram, mais Twitter, ça serait l'influenceur. L'influenceur, dans un, d'une autre manière que Instagram, c'est l'influenceur d'idées, l'influenceur d'informations, celui par qui on va passer pour transmettre ces choses-là. Et du coup, son importance dépasse de loin le réseau lui-même. Bien sûr, tous les réseaux sociaux autorisent l'embed, l'intégration de certains de leurs contenus dans des pages web, mais Twitter, on en parle bien sûr dans des articles, on en parle à la télévision, on en parle dans, même quand on a des parodies ou des faux réseaux sociaux à utiliser dans le cinéma, bah c'est souvent un Twitter qu'on va utiliser, autant qu'un Facebook. Et du coup, son importance est vraiment, vraiment plus grande qu'on ne pourrait le penser en regardant les simples chiffres. D'ailleurs, un autre élément intéressant à noter, c'est que quand on met des hashtags sur une publicité, sur une affiche de film, sur ce genre de choses, eh ben, on met les comptes Facebook, bien sûr, parce qu'il est incontournable, parfois Instagram, mais autant que Facebook, on va utiliser Twitter et les hashtags sont très utilisés sur Twitter. Donc, tout ça pour dire que le changement de présidence, de dirigeant, de Jack Dorsey à Parag Agrawal, eh ben, il est extrêmement important. J'ai même pensé au titre que je voulais utiliser pour cet épisode, quand je réfléchissais au sujet que j'allais traiter. Et le titre que je voulais utiliser, c'était « L'homme le plus important du monde ». Évidemment, c'est un petit peu buzzy, mais Parag Agrawal, c'est un petit peu, comment dire, peut-être même clickbait. Parag Agrawal, selon certaines considérations, pourrait être devenu l'homme le plus important du monde parce qu'il va diriger le réseau social qui a le plus de portée de communication. Je trouve peut-être même encore plus que Facebook. D'ailleurs, on l'a vu quand Donald Trump a pris de l'importance et que sa communication est devenue incontournable, c'était sur Twitter, pas sur Facebook. Alors évidemment que Facebook compte aussi, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais la voix d'une personne est portée par Twitter beaucoup plus que par d'autres réseaux sociaux. Et donc, la manière dont va le gérer Parag Agrawal est extrêmement importante pour le monde dans son ensemble. Donc, ceci expliqué, il faut regarder un petit peu pourquoi est-ce que Jack Dorsey s'en va. Alors évidemment, ça lui pendait au nez depuis un moment. Hein. Jack Dorsey était revenu il y a quelques années à la tête de Twitter, mais sans quitter la tête de son autre société importante, Square, qui est une solution de paiement physique essentiellement. Et il partageait son temps entre les deux sociétés. Et ce qu'on lit parfois, c'est que les employés de Square avaient l'impression qu'ils passaient plus de temps chez Twitter que chez Square. Les employés de Twitter avaient l'impression qu'ils passaient plus de temps chez Square que chez Twitter. De fait, le board n'était pas très content non seulement de cette situation, pour le principe, mais également des performances du réseau. Parce que quand je dis qu'il est à 300 millions d'utilisateurs environ, eh ben, il y est depuis des années et des années. Et quand dans le même temps, ses concurrents connaissent une croissance significative, et c'est généralement importante, eh ben Twitter, lui, il reste à peu près stable. Et donc, pour les investisseurs, clairement, ce n'est pas ce qu'ils voudraient voir, les investisseurs et les actionnaires, bien sûr. Et le board avait ajouté certains membres, et avec un rachat agressif d'un fonds d'investissement, avait exigé de Jack Dorsey qu'il ait des objectifs très clairs de croissance qui étaient ambitieux et qui avaient été établis en début d'année de cette année. Et c'était à un moment où on se demandait s'il allait être sorti de son poste. Et il avait fait ce deal en disant bah, « j'ai ces objectifs et si je ne les atteins pas, là, effectivement, on pourra en reparler ». Donc, on pourrait se dire « ah bah, du coup, peut-être qu'il était en mauvaise position et qu'il est parti avant qu'on lui montre la porte ». Alors, c'est possible, mais il avait quand même, d'après les échos qu'on avait jusqu'à maintenant, il était en bien meilleure position au board et une partie de ses... Disons qu'il n'avait pas atteint ses objectifs, mais il avait clairement été dans le bon sens. Donc, on ne saura peut-être pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est à la fois surprenant et pas surprenant qu'il parte parce qu'il était dans cette position étrange et il était également en bonne voie pour... faire avancer Twitter dans le sens que voulait le board. Ceci dit, Parag Agrawal qui reprend la tête, c'est clairement un nouveau sang pour Twitter et clairement une continuité peut-être, mais c'est une personne qui va être responsable uniquement de Twitter, qui connaît la société et qui est un ingénieur. Il a un passé d'ingénieur, il y est depuis 10 ans, donc, comme je le disais. C'est un ami et un confident et un proche de Jack Dorsey qui a sa confiance et qui, selon ce qu'on comprend, risque de ne pas complètement révolutionner la manière dont Twitter est géré. Mais les enjeux et les défis qui se posent à lui sont évidemment importants. Il y a d'une part le fait de contenter le board qui est encore plus important pour lui puisque non seulement il n'a pas Square sur lequel retomber ou peut-être un sac d'argent immense comme c'est le cas de Jack Dorsey qui peut être le type excentrique avec sa barbe et ses déclarations un petit peu cryptiques, etc. C'est pas non plus un Elon Musk. Mais clairement, c'est une figure étrange un petit peu de la Silicon Valley. Parag Agrawal, il ne peut pas se permettre ce genre de choses. Et donc, il faut qu'il contente le board. Et puis, il y a des défis qui se posent à Twitter en général, comme à tous les réseaux sociaux, mais peut-être encore plus sur le réseau de l'oiseau. La question de la modération, qui est importante et qui se pose toujours. La question des fonctionnalités, parce que si ces derniers mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont lancées régulièrement et des tests qui sont effectués, certains intéressants. On a vu les Spaces, qui sont une copie de Clubhouse, ces salons audio en live. On a aussi Twitter Blue, qui est l'abonnement à Twitter, qui a été lancé dans certains pays du monde. Donc, il y a des choses qui se passent, et j'en parle régulièrement. Mais pas de changement fondamental du produit depuis très très longtemps. Donc, Parag Agrawal pourra, et même devra, peut-être le faire évoluer pour peut-être attirer plus de monde encore, mais sans en changer la nature profonde. Et ça, c'est évidemment pas facile. Et les raisons pour lesquelles il doit faire ça, c'est qu'il est, bien sûr, redevable au board encore plus que Jack Dorsey. Et le board attend de lui qu'il amène des résultats. Résultats financiers au final, et donc des nouveaux utilisateurs qui rejoindraient le service. Je pense que c'est le but principal, et surtout des nouveaux utilisateurs monétisables. Alors, ça peut vouloir dire des changements importants pour la société, des changements importants dont on ne connaît pas exactement la nature aujourd'hui, puisque ça vient d'arriver, ça a été annoncé hier et il est déjà président, Parag Agrawal, donc c'est déjà acté. Mais ça pourrait changer le réseau de manière vraiment significative. À voir ce qui va se passer. Il y a une dernière note que je voudrais faire sur Agrawal, c'est que il est, comme Jack Dorsey, un grand fan des crypto-monnaies. Et ça, c'est un sujet qui est évidemment controversé chez de nombreux auditeurs et utilisateurs, comme j'en parle souvent. Et il y aurait des opportunités de faire des choses dans le domaine des crypto-monnaies avec Twitter. Est-ce que ça va avoir lieu? Je ne sais pas. Mais c'est une voie qui pourrait être explorée par Agrawal, d'autant plus que c'est un ingénieur, c'est un technicien qui connaît le fonctionnement de la boîte et qui connaît les rouages de ces systèmes, qui a la confiance, visiblement, de ses équipes et de la boîte. Et donc, il pourrait implémenter des changements dans ce sens. À voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on saura un jour si Jack Dorsey est parti parce qu'il voulait vraiment partir. Alors, il l'a dit comme ça dans sa communication. Et peut-être qu'il est parti parce qu'il a été un petit peu poussé dehors pour que le réseau évolue enfin. Évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on ne sait pas. C'est clair que Twitter est, comme je le disais, l'endroit où on communique. Pour le meilleur et pour le pire, c'est la place publique d'Internet, on va dire. Donc, gros changement. J'espère que vous aurez une petite image assez claire maintenant de ce qui a mené à cette situation. Et pour la suite, je suis sûr qu'on va avoir très très vite des nouvelles qui vont arriver pour les évolutions de Twitter et on ne manquera pas d'en parler, évidemment.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Deuxième sujet, j'évoquais à l'instant la question des bitcoins et j'ai trois petits sujets qui parlent de bitcoin ou plutôt qui parlent de crypto-monnaie et qui sont assez intéressantes. Et généralement, alors encore une fois, j'ai l'impression que je dois le faire à chaque fois que je parle de crypto-monnaie, je fais un petit disclaimer, un petit avertissement. Il y a toujours des gens qui sont très énervés quand je parle de crypto-monnaie, dans les deux sens. Des gens qui sont très très contre et des gens qui sont très très pour. À moi, je vais vous adresser un message à vous qui êtes très énervés. Un message vraiment en toute amitié. À moins que vous n'ayez des choses nouvelles à apporter à la conversation, je vous remercierai de ne pas m'envoyer de messages et de tweets et sur le Discord qui répètent ce qu'on dit depuis des mois, à savoir les crypto-monnaies sont un drame pour l'environnement, ou alors de l'autre côté, mais les crypto-monnaies vont venir révolutionner la manière dont on conçoit la décentralisation. On sait tout ça, j'en parle tout le temps. Il y a tous ces éléments qui sont pris en compte et parfois on parle des aspects positifs des crypto-monnaies et de la blockchain et de la manière dont ils peuvent être utilisés de manière intéressante et parfois on parle des aspects moins positifs. Aujourd'hui, il se trouve qu'on va parler des problèmes qui sont réels et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont pour ou contre doivent se sentir obligés de m'engueuler, moi, personnellement, parce que je parle des news qu'il y a dans le monde. Merci beaucoup. C'est marrant, hein, je ne fais jamais ce genre de choses. Je ne fais jamais ce genre d'avertissement aussi clairement. Et pourtant, Dieu sait qu'on parle de sujets où les gens s'écharpent. Mais sur les crypto-monnaies, je suis un petit peu... Ça me fatigue un peu, là, je vous avoue. Ça me fatigue quand je dois revenir sur l'établi pour y repasser les trucs après les épisodes, mais ça ne me fatigue pas au point de ne plus en parler, parce que c'est évidemment des sujets importants qu'il faut traiter et expliquer et analyser dans les émissions. Et il y a un petit cluster de news sur les crypto-monnaies qui m'a intéressé. La première information, c'est le fait que le Kazakhstan s'est vu obligé de de rationner l'énergie aux mineurs de crypto-monnaies dans le pays. Il y en a une cinquantaine seulement, mais une cinquantaine de mineurs de crypto-monnaies officiels qui ont demandé une autorisation, ils doivent rationner l'électricité qu'ils leur attribuent parce qu'il y a énormément de mineurs illégaux qui sont arrivés au Kazakhstan parce que la Chine, vous vous en souvenez, a fait a rendu extrêmement difficile le fait de miner dans le pays. Donc, une grande partie des mineurs qui sont partis de Chine se sont installés au Kazakhstan et ils utilisent tellement d'électricité que ça cause des blackouts, donc des coupures d'électricité, dans différents endroits du pays. Et là, on parle de problèmes réels. Je vais continuer et puis je vais en parler un petit peu plus spécifiquement dans une seconde parce que le deuxième sujet que je veux évoquer y est lié. Et vous vous dites, ah bah oui, le Kazakhstan, effectivement, leur infrastructure ne peut pas soutenir ce type de consommation. Et malheureusement, c'est un gros problème pour eux. Mais dans des pays où on a plus d'infrastructures, c'est moins un problème. Et effectivement, c'est moins un problème, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. La Suède, par exemple, a constaté qu'entre avril et août de cette année, la consommation d'électricité pour le minage de crypto-monnaies a augmenté de plusieurs centaines de pourcents. Alors, ça se trouve, il y en avait très, très, très peu, mais c'est quand même une consommation préoccupante et une tendance préoccupante. Aujourd'hui, le minage utilise, selon eux, la consommation électrique d'une ville de 200 000 habitants. Enfin, de 200 000 habitations, plutôt, pour être plus précis. Donc, 200 000 habitations, c'est l'équivalent de ce que consomment les crypto-monnaies en Suède. Ce n'est pas encore un gros, gros, gros problème, mais évidemment, c'est un problème qui va finir par se poser si la tendance continue dans ce sens. Et au fur et à mesure que certains interdisent ou rendent plus difficile le minage dans leur pays, eh ben, ça peut poser des gros, gros problèmes. Il y a les travaux qui sont en train de commencer en haut. J'espère que vous n'allez pas les entendre, mais on va voir. Parce qu'en plus de la maladie, des dents qui poussent de la fille, du saut comportemental et de tout le reste, eh ben, il y a des travaux en plus dans la maison. Donc, elle ne peut pas dormir, il faut la sortir. Enfin bon, bref, c'est le festival, l'apocalypse, je vous dis. Donc, 200 000 habitations en Suède. Si ça continue à augmenter, évidemment, ça sera un plus gros problème. Et la Suède est en train de parler avec l'Union européenne ou d'encourager l'Union européenne à prendre des mesures drastiques contre le minage de Bitcoin ou de crypto-monnaies dans l'Union européenne, de la même manière peut-être que l'a fait la Chine pour d'autres raisons. C'est clairement un souci. Et à chaque fois que je parle de ces problèmes de consommation des crypto-monnaies, alors il y a deux réactions. Ceux qui trouvent que les crypto-monnaies qui vont aux extrêmes, de toute façon, les crypto-monnaies, ça ne sert à rien. Les NFT, c'est des arnaques. Les tokens, c'est des pyramides de Ponzi. Et en plus, ça consomme beaucoup d'électricité qui font un petit peu, on sent qu'ils sont très, très contre. Et de l'autre côté, il y a les gens qui vont me dire « Ah mais non, mais de toute façon, ils n'utilisent que de l'énergie verte. Et puis en plus, on va bientôt passer à la preuve, on va abandonner la preuve de travail qui est très consommatrice d'électricité. On va passer à la proof of stake. » Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est un autre type de validation de transaction qui n'est pas énergivore. Bon, ça fait un petit peu des mois et des mois, voire des années, qu'on parle de cette transition du côté de Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus importante, et qui n'est pas que une crypto-monnaie, puisqu'elle permet des contrats intelligents, enfin, ça permet le développement de plein de choses. C'est beaucoup plus ambitieux que Bitcoin, mais ça fait longtemps qu'on en parle, j'imagine que ça va finir par arriver, mais c'est pas encore là, et puis ça ne concerne que Ethereum, qui est très important, mais Bitcoin reste le plus gros consommateur, et là, de ce côté-là, bah, on n'est pas en train discuter d'une transition à la proof of stake pour Bitcoin. Et du coup, c'est un problème pour les années à venir, c'est clairement un problème, et même la consommation d'énergie verte, elle est tellement importante que ça fait augmenter les prix, ça pousse les gens vers des énergies non vertes. Donc, le fait d'être tellement enthousiaste pour les crypto-monnaies, et je comprends tout à fait, hein, y a des choses intéressantes qui se font là-dedans, et de balayer d'un revers de la main, de dismiss la question de la consommation d'électricité, à mon avis, c'est pas très responsable comme approche. Donc, là, c'est, je dirais, un moment où on commence à avoir une vraie visibilité là-dessus. Et le fait que la Suède tire la sonnette d'alarme, à mon avis, ça ne va pas immédiatement pousser l'Union européenne à prendre des mesures ou à légiférer. Mais par contre, c'est un premier signal qui fait que on va peut-être commencer à s'y intéresser plus sérieusement dans l'Union européenne. Donc voilà, je le dis sans plus de jugement que ça, je vous rapporte les news et je vous les explique, et s'il y en a certains que ça satisfait ou que ça énerve, je suis désolé, c'est pas moi qui fais la réalité, je ne fais que en parler, donc voilà. une mention très très rapide pour parler d'un article de Stephen Deal qui parle d'un élément intéressant de l'économie des tokens. Alors les tokens, c'est les monnaies qui sont basées sur une autre infrastructure, généralement Ethereum. Donc en gros, c'est des crypto-monnaies qui n'ont pas elles-mêmes leur propre infrastructure comme Bitcoin, leur propre blockchain et protocole. Donc, les tokens et les crypto-monnaies en général, Stephen Deal fait une analyse intéressante qui est dans l'air, mais qui n'est pas dite de cette manière, qui dit ça permet de délocaliser ou de déporter les investissements depuis les investisseurs traditionnels vers un public général qui est dans un domaine qui n'a pas de législation du tout, pas de règles, pas de parce que bien sûr on parle souvent de des marchés financiers. Mais dans les marchés financiers, c'est extrêmement régulé, extrêmement légiféré. Il y a plein de choses que les sociétés, les investisseurs, les mises en vente doivent faire, des choses qu'ils doivent rendre publiques, etc., etc. Et dans le domaine des crypto-monnaies, eh ben, il n'y a rien de tout ça. Et il y a des structures qui reproduisent certaines opérations du monde réel, comme, en fait, c'est presque une arrivée sur le marché, de manière à ce que n'importe qui puisse acheter des parts d'un projet. Je ne dis pas de société, parce que ce n'est souvent pas des sociétés, mais c'est un petit peu la même chose. Mais sans régulation, sans même parfois qu'on ne connaisse l'identité des personnes. J'ai, comme vous le savez, un petit peu joué avec des crypto-monnaies depuis quelques mois. Et il y a plein de tokens, donc de crypto-monnaies, les meme coins, vous savez, qui sont basés sur des chiens, des Shiba Inu, ce genre de choses, qui sont gérés par des équipes de 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et quand on va sur la page des projets, leur identité, ils disent rencontrer l'équipe, c'est généralement des pseudos. Souvent, leurs photos, c'est des photos de cartoon, enfin de dessins animés, c'est pas leurs vraies photos. On ne sait pas qui sont ces gens. Et ils vont vendre leur monnaie ou leur projet. Je parle des crypto-monnaies, il y a plein de choses. Il y a des NFT, il y a des trucs de jeu, il y a plein de choses. Il y a des crypto-monnaies, enfin des tokens liés à des jeux gratuits avec du play-to-earn, qui est un concept intéressant et dont on parlera peut-être un jour, mais qui là, ce dont je veux parler, c'est le fait que c'est des trucs relativement ambitieux, mais qui sont encore une fois lancés et gérés par des équipes dont on ne sait rien. Donc, ça, c'est un aspect dont on n'a pas toujours parlé, mais qui est assez intéressant. Et c'est cet aspect absence de règles, de régulation, de législation dans ce domaine-là, allié à une ambiance d'investissement spéculatif. Ce que dit Stephen Deal, c'est qu'il y a une sorte de spéculation mania dans ce domaine, et donc c'est non seulement dangereux, mais enfin sur le principe, c'est un problème. Donc voilà pour la petite partie crypto et Bitcoin et blockchain. J'espère que j'ai été assez clair sur les commentaires à ce sujet. Bon, parlons un petit peu de législation en France. Il y a des questions rigolotes qui sont posées ces derniers temps. La première, c'est: est-ce qu'il faudrait enlever les boutons Netflix et Amazon des télécommandes ? Et c'est très sérieux. En fait, vous savez que la plupart des télécommandes de télévision sont vendues aujourd'hui avec des boutons pour différents services, et notamment les plus connus, les plus universels, des services comme Netflix, Amazon, Hulu, etc., etc. Et donc, c'est un moyen d'accéder directement sur sa télé à ces services. Et il y a, à l'Assemblée nationale, deux députés qui travaillent à l'idée de changer les choses dans ce domaine. Et on a beaucoup parlé de la question des boutons sur les télécommandes. Peut-être que vous avez vu passer des tweets à ce sujet. On parle aussi des interfaces des télévisions de manière un peu plus large, c'est-à-dire quelles applications présentent les interfaces de ces télévisions. Est-ce qu'on va présenter Amazon, Hulu, Netflix, ou est-ce qu'il faut mettre en avant Salto, MyCanal ou d'autres types de services de ce type au nom de la souveraineté culturelle, finalement. Et alors, avant de parler de la question de est-ce que c'est bien ou pas, évidemment, sur les télévisions, sur les interfaces, c'est plus facile à faire. On pourrait dire, vous développez une interface et quand la localisation est en France, vous mettez telle et telle application en avant. OK, sur les télécommandes, évidemment, c'est plus problématique. Est-ce qu'il faut construire des télécommandes uniquement pour le marché français, et puis d'autres pour le marché allemand, et puis d'autres pour le marché machin. Bon, c'est un peu ridicule, mais ça serait possible, ça serait un coût supplémentaire. Je comprends que ça fasse grincer des dents. Au-delà de ça, il y a une vraie question qui se pose sur la souveraineté culturelle. Et moi, je suis un petit peu ambivalent. Je crois que la réaction naturelle, c'est de dire « Oh, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Encore un truc à la française où on ne peut pas vraiment entrer en compétition avec les autres services et donc on va forcer un truc artificiel pour se mettre en avant ?» Et je pense que l'analyse, même si elle est un peu caricaturale, est compréhensible. Mais d'un autre côté, je prends toujours l'exemple du marché du cinéma français et de la manière dont il est soutenu par tout un tas de législations qui vont du soutien des chaînes de télé, de la production de chaînes de télé qu'elles sont obligées de faire pour le cinéma français, à les fenêtres de, comment dire, la chronologie des médias, etc., etc., pour soutenir le cinéma. Et c'est vrai que, même si c'est très contraignant et c'est parfois difficilement compréhensible, eh ben, ça fait que le cinéma français existe, là où dans d'autres pays de taille similaire, il n'existe peut-être pas, et le cinéma français est assez reconnu au niveau mondial. Alors peut-être moins ces dernières années, peut-être que les choses ont vraiment évolué avec l'arrivée des services Internet et que le panorama du monde a changé. Mais je pense qu'il est intéressant de noter ce succès finalement, parce que qu'on soit d'accord qu'on aime les films qu'on produit ou pas, eh ben le fait est que l'industrie du cinéma en France, elle existe, elle est importante et elle est reconnue. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément mettre des boutons Salto sur les télécommandes des téléviseurs vendus en France ? Non, je ne suis pas convaincu, mais c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit qui fait que la conclusion n'est pas immédiate et simple comme on pourrait le penser au premier abord, selon moi en tout cas. Bon, après, si votre conclusion malgré tout ça est que c'est un petit peu étrange de forcer les constructeurs de téléviseurs à mettre des boutons Salto et MyCanal sur leur télécommande, surtout que, bon, on pourrait imaginer que Salto va durer 1 ou 2 ans et puis disparaître. Ok, mais il n'empêche, c'est un élément de réflexion à prendre en compte. L'autre sujet que je voudrais évoquer, c'est le sujet du cyberscore. Là encore, c'est une discussion qui a lieu au Parlement. C'est l'idée d'avoir pour des sociétés, des services numériques, un cyberscore qui établirait le niveau de sécurité informatique de la société ou du service, de manière à rendre très facilement visible cet élément du business de la société en question. Il y a le Nutri-Score qui est déjà établi et ça serait un petit peu un équivalent pour le domaine dont on parle. Et je pense qu'effectivement, là, il y a moins de controverses. Moi, je pense que ça serait une idée intéressante à développer. Alors, évidemment, il y a tout un tas de choses à déterminer, hein. Il faut savoir ce que va noter le cyberscore. Est-ce que c'est la sécurité des données ? L'emplacement des serveurs, s'ils sont en France, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis, ce n'est pas la même chose qu'en Chine. Est-ce que les serveurs sont protégés par des moyens audités ? Est-ce que le code est sécurisé ? Etc, etc, etc. Alors, un cyberscore, c'est bien pour résumer la chose. Peut-être qu'il faudrait des éléments détaillés pour ceux qui souhaitent les voir. Il y a aussi un élément important, c'est qui va établir le cyberscore, qui va auditer ce genre de choses. Mais je crois que, de la même manière que le Nutri-Score est important, les détails, on va dire, nutritionnels des aliments, le cyberscore est important pour l'information, évidemment, l'information des consommateurs, pour qu'on puisse faire nos choix en connaissance de cause, et aussi, soyons honnêtes, pour motiver les sociétés à mieux faire, ou plutôt à bien faire, là où c'est pas toujours le cas quand on n'a pas ces choses exposées au grand jour. Donc, les détails restent à définir, évidemment, Mais je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant, un outil d'information vraiment intéressant à avoir. Donc j'espère que les discussions vont continuer sur ce sujet. Et enfin, la troisième idée dont on discute toujours c'est au Parlement, je crois. Enfin, c'est une idée qui est... oui, c'est ça. C'est un amendement d'une loi, toujours au Parlement. Une idée qui est intéressante, mais qui, là, est peut-être un petit peu moins... Comment dire ? Sur laquelle j'ai un petit peu moins de certitude. Enfin, je pense que c'est pas forcément une bonne idée, même si a priori ça pourrait sembler être une bonne idée. Je vais faire un petit remerciement d'ailleurs à Julien Lausson de Numérama qui a écrit les trois articles que j'évoque sur les sujets que j'évoque aujourd'hui. J'avais vu ces sujets passer ici et là, mais Numérama a fait de bons résumés sur les sujets et Julien Lausson, qui est toujours très bon sur les sujets législatifs, a très bien résumé les questions. Donc, comme souvent, Numérama me sert de source ici. Et donc, cet amendement dont je voudrais parler voudrait forcer l'ouverture du code source des logiciels quand ils ne sont plus mis à jour. Et ça pourrait sembler une bonne idée, mais ça a des conséquences qui peuvent être un petit peu moins souhaitables. L'idée, à la base, est compréhensible. On se dit, bon, un logiciel est vendu, il faut le maintenir à jour parce qu'il y a toujours des failles de sécurité, des changements dans les systèmes d'exploitation qui peuvent faire en sorte que le logiciel ne marche plus, etc. Il faut le mettre à jour. Au bout d'un moment, la société qui l'édite va peut-être arrêter de l'utiliser, arrêter de le mettre à jour, et donc ces logiciels deviennent soit problématiques parce qu'on y trouve des failles qui sont plus corrigées, soit ne peuvent plus fonctionner, mais c'est surtout la question de la protection qui préoccupe les gens qui en parlent, si je ne me trompe pas. Et du coup, une idée serait, bon, bah, vous ne voulez plus vous en occuper, vous ne voulez plus le mettre à jour, ouvrez le code source, et donc, comme ça, les utilisateurs peuvent en faire quelque chose. Et il y a deux points que je retiens qui en compliquent la mise en œuvre, parce que l'idée, comme je le disais, pourrait être intéressante. Deux points que je retiens. D'une part, qu'est-ce que ça veut dire une mise à jour ? Alors, il faudrait le déterminer. Ce n'est pas forcément un élément pour se dire non, donc ça ne marcherait pas. Mais c'est vrai qu'une mise à jour, c'est compliqué à définir. Si l'éditeur dit, on va dire, OK, si vous ne le mettez pas à jour pendant 3 ans ou pendant 2 ans ou 1 an ou ce que c'est, eh ben, il faut ouvrir le code source. OK ? Tous les ans, comme par hasard, il y a une mise à jour qui dit nous avons changé tel ou tel truc. Est-ce qu'il faut étudier les mises à jour pour savoir si c'est des mises à jour substantielles, suffisamment substantielles pour que ça compte ? C'est très compliqué de savoir ce qui est une mise à jour valide ou pas, ou une mise à jour tout court. Et d'un autre côté, le problème, au-delà du fait qu'ouvrir le code source ouvre au monde entier la propriété intellectuelle et le code source ne peut pas être considéré comme propriété intellectuelle. Donc, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut le dire, mais ouvre le fonctionnement d'un logiciel à tout le monde. Donc, on peut voir comment ça marche, peut-être pour le copier, mais surtout, justement, pour y trouver les failles de sécurité. Et du coup, quand le code source est ouvert, tout à coup, on a beaucoup plus de facilité à l'exploiter, ce logiciel. Donc, c'est une aubaine pour les cybercriminels qui voudraient rentrer dans ces logiciels-là. Donc, ça complique. Alors, peut-être que, par effet de contrainte, ça fait que les éditeurs vont, une fois le code source ouvert, vouloir encore plus mettre à jour parce que ça risque de rendre leur logiciel moins sûr. Je sais pas. Franchement, ça complique tellement les choses. Je crois que c'est un petit peu... parfois, les solutions qui sont implémentées sont celles qui sont les plus efficaces par presque sélection naturelle. Et là, je crains que ça complique tellement les choses que ça pose plus de problèmes que ça n'en résolve. Et c'est ça qui me fait craindre les conséquences, comment dire, inattendues ou non désirées d'une règle comme celle-ci, d'une loi comme celle-là. Donc voilà, ça, l'ouverture du code source, encore une fois, ça peut être une bonne idée dans un contexte où on se dit « Ah oui, il faut qu'on soit propriétaire de notre matériel et logiciel, qu'on puisse en faire ce qu'on veut, ok ?» Mais en fait, pas forcément. Donc voilà pour ces trois petits sujets, donc Twitter, les cryptos et quelques lois dont on discute en France aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler également, mais je crois que c'était les principaux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous n'avez pas trop senti les miasmes qui m'assaillent et qui me rendent les choses un petit peu plus difficiles. Dites-moi si vous avez bien aimé cet épisode ou si c'était un petit peu moins agréable pour vous à écouter. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme je le disais. Souhaitez-moi bon courage, j'espère que je vais pouvoir, que ça va arriver sur la fin et que je vais pouvoir revenir à un rythme un petit peu plus normal dans les jours qui viennent, au minimum que mes enfants ne seront plus malades, donc si moi je suis à moitié mort, le grand sera à la crèche, ça sera déjà ça, et que ma femme ira un petit peu mieux, comme ça elle pourra me délester un petit peu, mais bon. On verra ce qu'il en est, j'espère pouvoir faire le rendez-vous jeu en jeudi comme prévu, On verra comment ça se passe. Je vous remercie d'avoir écouté. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Et surtout, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous vous dites que 10 cafés sans Patrick, c'est une semaine un petit peu morne, et que 9 cafés plus Patrick, c'est une semaine magnifique, ça rime, peut-être que le coût d'un café pourrait être attribué au soutien de l'émission. C'est pas grand-chose, ça fait plaisir et ça vous donne des bonus cool comme l'absence de publicité, comme les time codes, comme les contenus bonus, etc., etc. Et puis surtout, la fierté, le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Dites-moi sur Twitter, tiens, ou sur le Discord aussi, dont le lien est sur notepatrick.com, ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se retrouve, j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux quand même. Donc, pour un épisode normal, la semaine prochaine. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.